Justice à San Francisco. C'est l'heure du journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Michael Ponge.
Bonjour Anne, merci. La communauté asiatique aux États-Unis visée par une nouvelle fusillade, la deuxième en moins de deux jours, on va s'y arrêter. Nos étapes du jour nous emmènent aussi au Pérou. Nouvelles manifestations sont prévues ce mardi à Buenos Aires, en Argentine, avec l'ouverture du sommet de la CELAC, en présence du Premier ministre Ariel Henry, venu très critiqué, nous dira Godson Pierre d'Alter Press. Cuba, rattrapé par le mouvement MeToo, la peur des représailles au Texas, ça marche un an après une loi interdisant l'IVG dès 6 semaines de grossesse. Cette loi porte ses fruits au détriment des femmes. Enfin, bien sûr, le journal de la première, Benoît Ferrand, en Martinique, avec l'histoire d'un très éphémère drapeau.
Oui, le nouveau drapeau Colibri, qui n'aura vécu que ce que vivent les roses. La conceptrice du drapeau a décidé de jeter l'éponge. Elle était victime de cyberharcèlement.
On en parle dans une quinzaine de minutes ensemble, Benoît. Bienvenue à tous.
Unknown. Through investigation, the suspect identified as Chung Lee Zhao.
Nouvelle fusillade, nouveau shérif, nouvelle ville, mais la même fin, tragique. Moins de 48 heures après la tuerie qui a fait 11 victimes en banlieue de Los Angeles, la Californie a donc de nouveau été hier le théâtre d'une fusillade mortelle. Cette fois-ci à Half Moon Bay, près de San Francisco. Bonjour Justine Fontaine.
Bonjour Mickaël, bonjour à toutes et à tous.
Un homme qui a ouvert le feu dans deux exploitations agricoles. Il a fait au moins 7 morts. Et comme à Monterey Park, Justine, les victimes sont d'origine asiatique.
Oui, et avant même d'avoir pu pleurer les morts de Monterey Park, nous sommes déjà confrontés à une nouvelle fusillade. C'est ce que déplore un élu local cité par le Los Angeles Times. Là encore, donc, plusieurs victimes sont des travailleurs d'origine chinoise, tués en pleine période de fête du Nouvel An chinois, déplore un représentant du comté cette fois-ci. Sur le site et la version papier du journal californien s'affichent de nombreuses photos de bougies qui, au milieu de la nuit américaine, éclairent les visages de membres de la communauté asiatique venu rendre hommage aux victimes de la salle de bal de Monterey Park, en banlieue de Los Angeles. Si l'on ne connaît pas encore les motivations des deux tireurs, ces fusillades choquent particulièrement dans ce quartier qui était présenté comme un modèle d'intégration pour les Asiatiques. C'est ce que souligne dans une tribune dans le même journal un professeur d'histoire de l'université de San Francisco. Pourquoi des personnes asiatiques sont-elles victimes encore une fois, dit-il en citant aussi des assassinats survenus ces 3 dernières années contre cette même communauté. Et si la violence touche tout le pays, souligne-t-il, la communauté asiatique a été forcée d'apprendre à vivre en état d'alerte permanente, regrette ce même éditorialiste.
Tragédie après tragédie, hein, telle que l'a déploré sur Twitter le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. De la côte ouest à la côte est, dimanche, dans les rues de New York, le retour d'un slogan. Mon corps, mon choix, cri de ralliement des pro-avortements. C'était donc dimanche, à l'occasion des 50 ans de Roe versus Wade, cette jurisprudence qui garantissait le droit à l'IVG au niveau fédéral et que la Cour suprême des États-Unis, fin juin 2022, a décidé de casser dans ce que l'on appelle désormais l'arrêt Dobbs. Un arrêt qui, pour faire simple, autorise à présent chaque État à légiférer sur l'interruption volontaire de grossesse. Il y a un an, avant le renversement de Roe versus Wade, le Texas avait lui décidé d'interdire tout IVG après 6 semaines de grossesse, fameuse loi SB8 hein, dont on avait beaucoup parlé ici. Un an après, eh bien, force est de constater que les craintes de poursuites judiciaires permises par cette loi SB8 ont eu leur effet. C'est notre dossier du jour, il est signé Thomas Arms.
Je suis tombée enceinte au Texas alors que la loi SB8 est entrée en vigueur. À chaque fois que le mot « avortement » a été prononcé, on me disait d'aller voir une clinique en dehors de l'État.
Emma Hernandez est une des 6 employées de We Testify, une organisation qui permet aux personnes qui ont eu une IVG de raconter leur histoire. Mais depuis le 24 juin dernier, en parler devient dangereux au Texas, même entre médecins et patients.
Les professionnels de santé ne présentent pas cette possibilité dans les conversations, au risque d'être criminalisé ou par crainte de possibles poursuites judiciaires dans le futur.
Depuis l'arrêt de la Cour suprême américaine, le Texas n'a plus de clinique abortive. En juin dernier, alors que la loi interdisait tout avortement après 6 semaines, les professionnels médicaux recensaient 2596 avortements. Le mois suivant, en juillet, on passait à 68 et en août, seuls 3 avortements ont été recensés.
Quand vous voyez ces chiffres, on se dit que l'avortement au Texas n'existe plus. Mais des IVG ont quand même lieu. Elles sont juste clandestines. Les gens pratiquent leur avortement seuls chez eux.
Car le risque de poursuite a pris le pas sur toute décision médicale.
Même les informations que nous partageons en ligne nous mettent en danger de poursuite.
Alors la liberté d'expression est-elle menacée par les lois anti-avortement ? Delma Limon est membre de Avow qui fait du plaidoyer en faveur du droit à l'IVG.
Quand les gens parlent de pratiquer un avortement seul, cela signifie souvent utiliser des médicaments. Mais les organisations ne sont pas autorisées à transmettre des informations sur cette pratique. Je sais que l'État du Texas veut attaquer les sites internet qui permettent l'accès à ces médicaments et chercher un moyen de les fermer.
Autre conséquence de l'arrêt Dobbs de la Cour suprême, la remise en activité des lois antérieures à 1973, quand la Cour avait autorisé l'IVG il y a 50 ans, et notamment la pénalisation de tout soutien à l'avortement, et pas uniquement après 6 semaines de grossesse.
Une de ces anciennes lois en place au Texas rendait illégal de financer ou d'assister un avortement, donc les fonds d'aide sont dans un flou juridique, ne sachant pas si elles ont ou non le droit de financer une personne qui veut avoir une IVG. Donc pour être certaines de rester dans la légalité, elles doivent obtenir une clarification par un tribunal. Une plainte a été déposée par Texas Fund Choice contre le ministre texan de la Justice, Paxton. Les fonds attendent cette décision.
Concrètement, sans l'aide de ces fonds de soutien, seules les personnes qui en ont les moyens peuvent avoir accès à l'avortement en quittant seules le Texas pour se rendre dans un autre État. Et dans ces larmes juridiques se trouve donc Texas Fund Choice, comme l'explique Jaylene Farmanson, une des responsables de ce fonds.
L'incertitude concernant ces lois et la désinformation qui les entoure nous empêchent de continuer à opérer et nous rend vraiment hésitants à parler de notre travail au public ou aux médias, parce que l'on ne veut pas mettre nos équipes en danger, ne sachant pas ce qu'on a le droit ou non de dire publiquement. Les gens ont tellement peur et sont tellement intimidés qu'ils ne vont plus chercher des solutions pour leur grossesse non désirée.
Depuis 1 an et demi, un seul procès pour avortement illégal a eu lieu aux États-Unis, au Texas, et le plaignant a été débouté. Pourtant, cette stratégie de la peur de la justice a fonctionné. Thomas Arms, Houston, RFI.
7h17 à Houston, 1 heure de plus à Lima.
Radio Francia Internacional. Las voces del mundo.
Le Pérou, où de nouvelles manifestations sont prévues cet après-midi contre la présidente Boluarte, Justine.
Oui, les étudiants vont descendre dans la rue, annonce en manchette La Repubblica, qui regrette que le Congrès prenne son temps, car le parti héritier de l'ancien dictateur Alberto Fujimori cherche, écrit le journal, à retarder le vote des députés, qui permettrait d'organiser des élections anticipées. Le Congrès risque de ne reprendre ses travaux que mi-février, alors que les manifestations se poursuivent depuis début décembre, la destitution du président Castillo pour demander d'avancer la date des prochaines législatives. Le quotidien national de gauche se fait aussi l'écho d'une plainte déposée par un groupe d'avocats d'Arequipa dans le sud du pays contre Dina Boluarte devant la Cour pénale internationale. Une plainte pour crime contre l'humanité qui vise aussi plusieurs ministres. Cela vient s'ajouter à l'enquête en cours contre la présidente dans son pays pour homicide et crime de génocide. Si elle quitte le pouvoir, l'ancien allié de Pedro Castillo pourrait risquer 15 à 20 temps de prison, estime un avocat interviewé là aussi par La Repubblica.
En lien bien sûr avec la répression des manifestations qui a fait 50 de morts depuis le mois de décembre, une réponse musclée à laquelle s'ajoute aussi le discours officiel qui parle de terroristes au sujet des manifestants, des terroristes qui s'en prennent à l'État. Ça ne fait qu'empirer les choses selon cet agriculteur et professeur de la région de Cusco au sud du Pérou. Écoutez-le.
Le terme terroriste est employé sans aucun discernement. Il est utilisé par la présidente de la République elle-même et cela réveille des souvenirs que nous avons malheureusement voulu oublier. L'utilisation de ce terme est tellement abusive que la seule chose qu'elle fait est d'exacerber encore plus la mobilisation de la population. Les habitants partent par délégations entières, depuis les régions rurales, par vagues vers la capitale. Les habitants de Lima se mettent eux aussi à soutenir de plus en plus le mouvement. Le terrorisme des années 80 avait pour objectif de semer la mort. Son but était de tuer. De nos jours, les gens sortent pour manifester. Donc l'usage de ce terme terroriste, c'est une provocation qui n'aide pas les gens à calmer leurs revendications et leurs velléités de mobilisation.
Le témoignage d'Alain, agriculteur et professeur péruvien, au téléphone de Braulio Moreau de la rédaction en espagnol de RFI. Alors un Pérou en crise, peut-être entrera-t-il question aujourd'hui à Buenos Aires où se tient le sommet de la CELAC, la communauté des États latino-américains. On va y revenir dans un instant, mais avant, Justine, revenons sur ce qu'il s'est passé hier dans la capitale argentine.
Oui, en préambule à ce sommet, le président brésilien Lula a réservé sa première visite officielle à l'étranger, à l'Argentine, dès hier lundi, vous en parliez. Et les deux pays ont annoncé vouloir créer une monnaie commune dans la région. Elle s'appellerait Sur, le Sud. L'objectif est d'enrayer la baisse des échanges commerciaux entre l'Argentine et le Brésil, d'abord, les deux géants d'Amérique du Sud, explique La Nation. Il ne s'agit pas d'une monnaie unique, comme l'euro, mais d'un taux de transaction fixe entre les deux monnaies pour faciliter le commerce bilatéral. Cela dit, les obstacles sont tout de même très nombreux, souligne Parina Dossé. À cause de l'inflation très élevée en Argentine, les taux d'intérêt sont radicalement différents de ceux du Brésil, 75% contre 14%. Et pour un économiste interrogé par le journal argentin, ce projet ne verrait le jour qu'à moyen terme, au mieux. L'intégration monétaire de l'Amérique du Sud n'est donc pas pour demain, voilà. Michael.
C'est ça, on va attendre avant de s'enflammer sur le sujet. On en vient, Justine, au sommet de la CELAC, donc qui s'est ouvert il y a maintenant un petit peu moins d'une heure. Une chaise vide, très remarquée, celle de Nicolas Maduro, qui avait pourtant répondu à l'invitation.
Ouais, le président vénézuélien a eu peur de la justice, assure le journal Clarín. C'est une défaite en règle pour le quotidien conservateur La Nation. Nicolas Maduro rêvait de signer son grand retour sur la scène régionale, mais en a été empêché par la mobilisation de la droite argentine et des exilés vénézuéliens à Buenos Aires, estime le quotidien. L'argument avancé dans le communiqué de Caracas hier lundi, invoquant un supposé plan de la droite néofasciste, je cite, qui aurait visé la délégation vénézuélienne, n'est qu'une excuse tout droit de sortie du manuel de la conspiration et de la paranoïa, tant de fois utilisé en 24 ans de chavisme, charge le correspondant régional de La Nation.
Lui, eh bien, à Buenos Aires, Ariel Henry, le Premier ministre haïtien, et ça fait polémique, on en parle avec vous, Godson Pierre, bonjour.
Bonjour, Michael.
Rédacteur en chef de l'agence en ligne Alter Press, qui nous apprend aujourd'hui que des membres de la diaspora haïtienne en Argentine projettent de manifester contre la présence du Premier ministre. Donc, Ariel Henry à ce sommet de la CELAC.
Eh bien, c'est une initiative du mouvement CELAC social, en contrepoint du sommet officiel. Cette protestation est annoncée pour la mi-journée devant l'hôtel où est logé Ariel Henry à Buenos Aires. Le CELAC social pointe du doigt le chef de gouvernement en Haïti comme responsable de la situation de crise multidimensionnelle qui sévit ici. Au cours d'une réunion du CELAC social hier, Ariel Henry a été qualifié d'usurpateur de pouvoir. Ariel Henry devra rencontrer plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans le cadre des rencontres bilatérales en marge du sommet, selon un communiqué officiel, et le souci est de renforcer les liens d'amitié avec les pays latino-américains et caribéens.
Et les mouvements sociaux argentins, eux, Godson, profitent de ce sommet de la CELAC et de la présence sur place du Brésilien Lula pour l'interpeller au sujet de la crise haïtienne.
Et ceci dans une lettre qui est datée du 23 janvier. Le mouvement Dialogo 2000, c'est une organisation argentine, un réseau conduit par le prix Nobel de la paix argentin Adolfo Pérez Esquivel. Bien, ce mouvement appelle le gouvernement brésilien à soutenir les droits du peuple haïtien. Il demande ainsi à Lula de rejeter toute intervention militaire en Haïti en se retirant du corps groupe et en œuvrant pour sa dissolution et la fermeture du bureau intégré de l'ONU en Haïti. Il faut rappeler que le Brésil a eu à diriger la composante militaire de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti durant un précédent mandat de Lula. Et cette lettre soutient également la proposition de transition unitaire de rupture du mouvement Montana comme une voie de solution à la crise.
Enfin, Godson, la police nationale haïtienne, elle condamne l'attaque meurtrière qui a été perpétrée en fin de semaine dernière, on en a parlé, hein, contre une patrouille policière du commissariat de Pétionville, dans la périphérie de Port-au-Prince.
Cette attaque au cours de laquelle 4 personnes ont été tuées, dont 3 policiers et un chauffeur de camion, et pour la 9e fois, la PNH promet de déployer tous les efforts nécessaires pour mettre hors d'état de nuire les bandes bandits et leurs alliés. La direction de la police adresse condoléances aux parents des victimes, évidemment, et lance un appel au calme et au respect des consignes de sécurité à tous les policiers dont la mission sensible les place sur la ligne de front.
Godson Pierre d'Alter Press, toutes ces informations à retrouver sur le site de votre agence. Merci beaucoup. Justine, pour terminer, au Brésil, le commanditaire de l'assassinat du journaliste Dom Phillips et de l'anthropologue Bruno Pereira aurait été identifié.
C'est ce qu'assure la police fédérale de l'État de l'Amazonas où ont été tués les deux hommes en juin dernier. Un homme surnommé Colombia et qui est soupçonné d'être à la tête d'une bande criminelle liée à la pêche illégale dans la région, précise le quotidien Folha de São Paulo. Selon les informations d'O Globo sur son site, cet homme est déjà en prison et pourrait être inculpé de meurtre dans les prochains jours.
Enfin, on termine à Cuba. L'île castriste, à son tour, rattrapée par le mouvement MeToo, qui fait toutefois face, là-bas aussi, à de nombreux obstacles.
Oui, d'abord, fin 2021, 5 femmes ont témoigné dans le média indépendant El Estornudo contre un chanteur et soutien du régime, Fernando Becker. En octobre dernier, il a été condamné à de la prison pour des agressions sexuelles contre au moins 6 femmes, mais sa peine a été aménagée, ce qui lui a permis de rester chez lui. De quoi susciter la colère des victimes, d'autant plus que sur les réseaux sociaux, le chanteur a publié début janvier des textes misogynes, un poste qui a créé un tollé. Fernando Becker aurait finalement été arrêté et emprisonné au début du mois. Une information confirmée il y a quelques jours dans un communiqué par un tribunal de la Havane. Mais hier encore, El Estornudo continuait de douter de cette information. Le chanteur est-il vraiment en prison ou bien est-il assigné à résidence avec un traitement de faveur? Face au manque de transparence des institutions cubaines dénoncées par le média en ligne, la journaliste qui a révélé l'affaire doute encore.
Justine Fontaine pour La Presse, merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Mickaël.
En Martinique, le nouveau drapeau Colibri n'aura vécu que ce que vivent les roses, c'est-à-dire l'espace d'un matin.
La conceptrice du drapeau, victime de cyberharcèlement sur les réseaux des cas sociaux, la conceptrice de ce drapeau, qui était arrivée en tête de la consultation récemment organisée, a décidé de jeter l'éponge suite à la polémique sur le dessin du colibri, dessin emprunté entre guillemets à une banque d'images. Pedro Monerville.
La Martiniquaise, à travers son courrier, affirme que sa décision est prise en toute conscience et que son retrait va de pair avec sa volonté de ne pas alimenter la polémique. Le drapeau 292, rouge vert noir, orné d'un colibri en vol, avait recueilli, on se le rappelle, 19 400 suffrages. Il avait cependant suscité un certain nombre d'interrogations, notamment sur les réseaux sociaux et singulièrement par rapport à l'utilisation du colibri. La collectivité, de son côté, appelle au respect du vote et apporte son soutien à la candidate. La CTM, qui par ailleurs condamne l'acharnement et la vague de haine déclenchée suite à cette affaire, le président du conseil exécutif prend acte donc de la volonté de la candidate de se retirer. Et face à cette nouvelle donne, un nouveau classement sera établi. Désormais, le drapeau numéro 891 prend la première place. Le nouveau classement sera transmis à l'Assemblée de Martinique, qui va délibérer du choix final de l'hymne et du drapeau de Martinique. Les conseillers territoriaux vont donc se prononcer les 2 et 3 février prochains.
Le drapeau, le nouveau drapeau 891, a les 3 mêmes couleurs, rouge, vert, noir, mais disposés différemment et bien sûr sans colibri. Direction maintenant la Guyane avec les allocataires de la caisse d'allocation familiale qui se sont fait pirater leur espace personnel et dérober le montant de leurs allocations. Il y en aurait pour environ 150 000 euros. L'occasion pour la directrice du service allocataire de la CAF Guyane de rappeler quelques bons conseils. Marie-Rose Chandely.
J'ai envie de rappeler, puisque l'occasion m'est donnée, l'importance qu'il y a pour les usagers lorsqu'ils se connectent sur un poste public, par exemple, de toujours penser à se déconnecter. Parce que souvent, on a tendance à faire nos opérations, à tourner le dos et à partir. Donc, il est important de veiller à se déconnecter. De veiller à ne pas cliquer sur un lien qui vous arrive de je sais où. Donc, de ne pas cliquer. Quand vous recevez des messages qui ne sont pas identifiés. Donc, toutes ces opérations de phishing, par exemple, qui nous parviennent, et vous savez, Dieu, comme il y en a beaucoup. Donc, de veiller à faire très, très attention. Et puis aussi, à ne pas communiquer à n'importe qui ses coordonnées de contact ou de connexion.
Voilà, des conseils, des bons conseils valables pas seulement en Guyane, bien entendu. Bon après-midi, Mickaël. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation aujourd'hui de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques, évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous le savez, vous nous réécoutez sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio. Très bonne journée à tous.